Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du sida au féminin, la pandémie africaine. Après les États-Unis en 81, les premiers cas de sida ont été notifiés à l'OMS par quelques pays d'Afrique à partir de 1985. Depuis près de 30 ans, pour 12% de la population mondiale, l'Afrique compte 70-75% des nouvelles infections VIH et plus des trois quarts donc des décès liés au sida. Partout sur le continent, les femmes sont les plus touchées, en particulier les jeunes filles. Là où la transmission hétérosexuelle est le mode principal de transmission du VIH, c'est ce que nous observons. 60% des cas d'infection du VIH en Afrique sont des femmes. En Asie, où l'épidémie est plus concentrée sur des groupes à risque, tels que les usagers de drogue, les taux sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. La différence est moins évidente dans les Caraïbes, qui reste la deuxième région mondiale la plus affectée par la pandémie. Les filles et les femmes sont exposées à l'infection à VIH dès le plus jeune âge, par voie sexuelle, sanguine ou maternelle. Il y a transmission mère-enfant du virus du sida. Quand la mère transmet le virus à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement, y compris pendant le travail, et pendant l'allaitement, le risque de transmission du virus de bébé est plus élevé si la mère est contaminée pendant la grossesse. Notons que les taux de transmission sont élevés à partir de 18 mois de l'âge du bébé, alors qu'ils sont faibles à 6 semaines de vie. Donc le risque de transmission du virus s'accroît avec la durée de l'allaitement. Il n'est pas possible d'évoquer en une heure l'ensemble des problématiques passionnantes, complexes, relatives à la contamination des femmes par le virus du sida, étudiées sur plus de 20 ans maintenant en Afrique. Je vous renvoie aux travaux des nombreux chercheurs qui se sont intéressés beaucoup en France sur ces sujets, notamment Didier Fassin, son livre « Les corps se souviennent », donc qui décrit la situation de la historique et de la situation en Afrique du Sud, et ceux des équipes de recherche, donc François Dabis et ses équipes, Alice Desclos, Annabelle Desgrés-Duloup, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, Yannick Jaffré, leurs partenaires sur le terrain. J'ai le plaisir de mentionner le travail remarquable que fait Bernadette Ruegera, fondatrice et directrice de l'association Ikambere à Paris, qui conduit au quotidien des activités en faveur des femmes africaines séropositives en France. Si je souhaite insister sur la pandémie de sida qui touche les femmes en Afrique subsaharienne, c'est qu'elle se caractérise tout à la fois par son ampleur, l'insuffisance de la recherche sur des dimensions qui nous semblent clés pourtant de cette problématique, la timidité de l'intérêt politique national et international à son égard, et si l'on veut bien aller au-delà des mots et des discours, la faiblesse de l'impact des réponses stratégiques menées pourtant depuis plus de 20 ans dans ce domaine, sur le terrain, pour laquelle je souhaite vous livrer des interprétations que je crois nouvelles et sinon peu abordées. En effet, la découverte de l'efficacité des traitements antirétroviraux, ARV, sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH remonte au début des années 90. Les protocoles se sont affinés au cours du temps, réduisant de plus en plus le risque de transmission au bébé selon les combinaisons de médicaments utilisés et administrés. Les recommandations des agences des Nations Unies, ONU, SIDA, UNICEF, OMS, pour leur mise en œuvre pratique de ces protocoles, ainsi qu'une multitude de revues et d'évaluations de programmes ont insisté sur comment lever les obstacles à l'amélioration de la couverture et de la qualité de l'offre de services de prévention de la transmission mère-enfant, que je dirais aussi de temps en temps PTME, prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Je ne reviendrai pas tellement sur ces contenus que vous pouvez lire sur le site des agences. Malgré tous ces efforts, en 2011, 18% des femmes enceintes vivant avec le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre, et nous commenterons ce taux tout à l'heure, ont bénéficié des schémas prophylactiques les plus efficaces afin de réduire le risque de transmission du VIH à leurs nourrissons et protéger leur propre santé. Seuls 14% des enfants nés de mères séropositives en Afrique de l'Ouest et du Centre reçoivent des médicaments. Après 20 ans d'efforts, nous ne pouvons pas être satisfaits par de tels résultats. Ces résultats nous invitent à sortir des interprétations habituelles. Quelles peuvent être les autres raisons de cet échec chronique de la prévention de la transmission du sida en Afrique, et en tout cas en Afrique de l'Ouest, puisque les résultats, nous le verrons, sont très inégaux entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone et australe. Donc je vous propose une présentation en 5 points. Après avoir présenté l'ampleur de la situation, les facteurs de vulnérabilité des jeunes filles, les stratégies nationales et internationales de prévention de la transmission mère-enfant du sida, les résultats sur le terrain, je passerai un peu plus de temps sur une réflexion sur la lenteur de ces progrès. Tout d'abord, l'ampleur de la situation. Le sida est la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer, âgées de 15 à 49 ans. À peu près dans tous les pays du continent, la prévalence de l'infection à VIH est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Cette différence est très marquée en Afrique de l'Ouest, 2 à 3 fois plus de femmes atteintes au Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, au Ghana, en Guinée. En Côte d'Ivoire, en 2008, chez les jeunes de 15 à 24 ans, la prévalence de l'infection VIH est de 6,4%. Versus 2,9% chez les garçons. Ces données sont antérieures à la guerre de 2011 à Abidjan et à l'instabilité politique qui a précédé dans tout le pays les violences. Relevons que les instabilités politiques ont été majeures aussi en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, donc au Mali, en Centrafrique ces dernières années. Les effets de ces conflits armés sur la propagation du sida ne sont pas explorés dans cette région, ce sur quoi nous reviendrons au dernier cours, le 11 avril, qui se propose donc d'analyser les questions de santé des pays en situation de conflit armé. La prévalence de l'infection à VIH augmente avec l'âge. Du côté de l'Afrique de l'Est, au Kenya par exemple, la prévalence des femmes passe de 2,8% dans la tranche d'âge 15-17 ans à 8,3% dans la tranche d'âge 23-24 ans, donc multiplié par 3. Dans plusieurs pays d'Afrique australe, plus de 10% des jeunes filles sont déjà séropositives. Selon l'ONU-SIDA, les filles âgées de 15 à 24 ans représentent un tiers de ceux qui contractent le virus. Dans cette tranche d'âge, le sexe ratio est le plus souvent supérieur à 2, comme vous le voyez sur cette diapositive. Les données globales ne nous intéressent pas beaucoup. Regardons de plus près ce qui se passe. J'invite les étudiants, les doctorants, quelles que soient vos spécialités, mais aussi les journalistes, les politologues, à vous intéresser plutôt à ce que nous disent les chiffres déclinés par groupe d'âge, par sexe, par région, par pays, à rechercher les informations plus fines que seule une analyse approfondie et des études vous permet de trouver. Ce sont ces informations-là qui seront utiles à élaborer des réponses appropriées, ajustées aux situations et aux dynamiques spécifiques de la pandémie par endroit et par groupe. Ce sont bien sûr aussi les informations qualitatives qui nous intéressent. Souvent, les plus intéressantes sont recueillies de façon informelle, une fois la confiance établie au point de lever certains tabous. Si l'on approfondit nos recherches, que lisons-nous ? Un rapport de l'ONU-SIDA en 2004, passé pratiquement inaperçu, affirmait que 75% des jeunes personnes âgées de 15 à 24 ans infectées par le VIH en Afrique étaient des jeunes filles. Les données qui fondaient ce constat remontent maintenant à 10 ans. Selon une étude de l'UNICEF en Côte d'Ivoire publiée en 2012, le sexe ratio pour ces jeunes de 15 à 24 ans est de 15 filles pour un garçon, soit beaucoup plus élevé que celui de 2 filles pour un garçon de la tranche d'âge précédente, 15-19 ans, ou que le sexe ratio observé dans la même tranche d'âge s'élevant à 2 les années précédentes. Donc vous voyez que la féminisation de la pandémie en Afrique se confirme et augmente, se précise avec le temps. Si je vous donne le sexe ratio à l'échelle mondiale pour la population des 15-24 ans, il est de 2 filles infectées pour un garçon. Au plan national en Côte d'Ivoire, le sexe ratio pour tout groupe d'âge confondu se situe entre 2 et 3. Vous voyez bien que la figure globale est assez banale, bien que frappante tout de même, alors que la figure déclinée pour les 15-24 ans nous interpelle beaucoup plus, puisqu'il s'agit de comprendre que ce sont 15 filles pour un garçon qui sont infectées par le VIH à cet âge-là dans ce pays. Le sexe ratio en faveur des filles est tel en Côte d'Ivoire que certains jeunes hommes sont tentés de privilégier les relations sexuelles avec les hommes pour se protéger de l'infection à VIH. Mais nous voyons bien sur cette diapositive que le taux de prévalence de l'infection à VIH est très élevé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Près de 18% à l'échelle du continent, c'est encore une figure globale, nous n'avons pas les données dans l'ensemble des pays. Taux qui peut être donc plus élevé par endroit et en tout cas beaucoup plus élevé de manière générale que dans la population en général. Je cite la Côte d'Ivoire parce que ce pays a le mérite d'avoir récemment exploré la question de la vulnérabilité des jeunes. La situation est très probablement similaire dans les pays voisins et nombreux pays du continent. Ces résultats méritent toute notre attention s'il s'agit d'anticiper des solutions pour l'avenir. Qui s'en saisit au plan national et international de la situation des jeunes et des jeunes filles par rapport au VIH? De manière générale, les rapports de réalisation des OMD de la santé vous présentent les observations, toutes les observations noyées sur un même plan, quelle que soit leur importance. Les commentaires et les analyses sont souvent limités. Il n'est pas facile de trouver une cohérence entre les documents publiés par différentes institutions, par l'OMS, par l'ONU-SIDA, l'UNICEF, les institutions de recherche, les bailleurs de fonds. Il faut du temps pour en extraire la substantifique moelle, ce qui nous intéresse, et restituer ce qui est important dans ces documents. Les hommes politiques ne peuvent pas faire ce travail. Il reste de très gros efforts à fournir pour améliorer la disponibilité et la diffusion des savoirs utiles à la santé, pour la santé, contre la pauvreté. Les facteurs de vulnérabilité des jeunes filles. La vulnérabilité est définie comme un ensemble de facteurs échappant au contrôle individuel qui réduisent l'aptitude des individus et des communautés à éviter le risque de l'infection à VIH, en l'occurrence. La vulnérabilité des filles est anatomique. Le risque de transmission du virus est plus élevé lors d'un rapport sexuel d'un homme infecté vers une femme que l'inverse. La vulnérabilité des filles est surtout structurelle. Ce sont des facteurs sociétaux et structuraux qui réduisent l'accès des filles à l'information, à l'éducation, au savoir et aux services de santé préventifs et curatifs. Analphabétisme, dépendance économique, maltraitance, violation des droits sont autant de facteurs de vulnérabilité. Les deux tiers des 796 millions de personnes illettrées sont des femmes dans le monde. Le niveau d'éducation, autrefois assez corrélé à l'infection à VIH, les moins éduquées étaient les plus atteintes, ne semble plus l'être selon le rapport récent en 2012 de Measure DHS. C'est une organisation qui mène des enquêtes démographie santé. La corrélation avec le niveau socio-économique joue plutôt dans le sens où plus les personnes sont riches, plus elles sont atteintes par le VIH. C'est un des changements par rapport aux années 90 qui donc sont commentés dans ce document. Néanmoins, en Côte d'Ivoire, l'étude UNICEF auprès des jeunes montre que le faible niveau d'éducation continue d'être un facteur de vulnérabilité chez les filles. Du fait de la précarité, certaines des jeunes filles s'adonnent occasionnellement à des rapports sexuels non protégés en échange d'argent ou de biens matériels. Elles s'exposent ainsi à contracter le virus sans pour autant être reconnues comme des prostituées. Elles échappent alors aux programmes de prévention et de prise en charge des groupes à risque quand ceux-ci sont menés. Cette vulnérabilité économique ne concerne pas seulement les filles pauvres peu éduquées. Elle s'étend aux élèves et aux étudiantes qui s'adonnent au sexe tarifé pour poursuivre leurs études. Selon une étude de la Banque mondiale, un enseignant sur deux a des relations sexuelles avec les étudiantes en Côte d'Ivoire. Les enseignants sont âgés de 18 à 35 ans. Du côté des filles, nous dit le rapport de l'UNICEF à Abidjan, les plus vulnérables des filles de 15 à 24 ans sont celles qui vivent en milieu rural, en union et sont pauvres. En union. Laurie Garrett du Council on Foreign Relations aux États-Unis s'est beaucoup intéressée au sida. Un de ses articles paru dans la revue Foreign Affairs en 2005 disait déjà que le mariage était devenu un facteur du risque pour les femmes, épouses d'hommes à partenaires sexuels multiples. Plus d'un tiers des filles âgées de 20 à 24 ans des pays à revenus limités ou intermédiaires se marient avant l'âge de 18 ans. 40% des jeunes filles ont un enfant avant l'âge de 20 ans en Côte d'Ivoire. Et 40% des grossesses à l'échelle mondiale ne sont pas désirées. Rapports sexuels précoces, grossesses précoces, mariages précoces exposent les jeunes filles au sida. Le rapport d'analyse de situation du sida en Afrique de l'Ouest et du Centre présente la jeunesse comme le principal facteur de risque et de vulnérabilité d'infection chez les filles. C'est leur âge, donc, qui est ce facteur de vulnérabilité. L'âge, le sexe, la physiologie, l'accès aux soins, la génétique et la biologie sont les éléments importants de vulnérabilité. Dans une étude au Malawi, en Ouganda et au Kenya, Jean-François Etard et ses équipes s'intéressent à une variation biologique selon laquelle les hommes sont moins réceptifs au traitement antirétroviral. Les hommes mettent plus de temps à atteindre le seuil de 500 cellules par microlitre, 500 CD4 par microlitre, au-dessus duquel la morbidité et la mortalité dues au sida sont moins élevées, dit-il. Cette différence s'explique par une faible observance des traitements antirétroviraux par les hommes et peut refléter aussi une explication biologique. Donc, bien que les femmes présentent une plus grande vulnérabilité face à la contamination, les hommes doivent faire l'objet d'une attention soutenue, dit le chercheur, de la part des programmes de prise en charge. Un facteur répandu de vulnérabilité a trait à l'ignorance et au manque d'information. Moins de 30% des jeunes femmes ont une compréhension complète et un savoir correct à propos du sida. L'usage du préservatif reste bas. Moins de 10% des femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre utilisent les préservatifs. Les femmes ne sont pas en position de refuser des rapports sexuels sans préservatif, de par leur position sociale. La grande majorité des personnes ne connaît pas son statut sérologique. Les taux de dépistage sont particulièrement faibles chez les jeunes gens. En moyenne, 15% des femmes et 10% des hommes âgés de 15 à 24 ans connaissent leur statut sérologique pour l'infection à VIH. Le taux de dépistage sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes, d'après les enquêtes démographiques et santé. De manière générale, les chercheurs s'entendent pour penser que les femmes sont plus souvent dépistées que les hommes, car le dépistage leur est plus souvent proposé, au travers notamment des interventions de prévention de la transmission mère-enfant du sida. Bila, le chercheur Bila et son équipe au Burkina Faso font remarquer que l'accès au traitement des hommes atteints de sida peut être moins facile que pour les femmes, du fait que celles-ci sont plus familières des services de santé que les hommes et qui perçoivent ces recours comme relevant d'une aide humanitaire associée à une reconnaissance de faiblesse de leur part, alors qu'on attend d'eux une place forte en famille et en société. Quelles sont les stratégies nationales et internationales en réponse à la situation et notamment vis-à-vis de la prévention de la transmission mère-enfant ? En 2009, il avait été estimé que plus de 15 millions de femmes âgées de plus de 15 ans vivaient avec le VIH dans le monde et que 1,5 million d'entre elles étaient enceintes. Près de 90% de ces femmes enceintes vivent dans 21 pays d'Afrique subsaharienne et l'Inde. Selon la responsable de l'UNICEF à la conférence mondiale sur le sida à Washington en juillet dernier, le risque de transmission du virus de la mère à l'enfant est de 25 à 45% s'il n'y a pas d'intervention. Un tiers des enfants séropositifs meurent avant l'âge d'un an et près de la moitié avant leur deuxième anniversaire. Si l'intervention de prévention est disponible, donc le dépistage et le traitement antirétroviral de la mère et de l'enfant, le taux de transmission peut être réduit à moins de 5%, disent les experts. Notons qu'en 2009, le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les enfants et les mères, ainsi que les décès d'enfants dus au VIH, était virtuellement nul dans les pays à revenus élevés. Les inégalités de santé sont considérables dans ce domaine. Face à cette situation, les pays sont invités à mettre en place des stratégies de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Les stratégies recommandées se déclinent en deux objectifs et quatre volets. Je vais insister tout de suite sur les quatre volets de la stratégie mondiale. Premièrement, réduire de 50% les nouvelles infections chez les femmes en âge de progrès, donc en amont de la grossesse, chez les jeunes filles et les femmes. Donc, réduire les nouvelles infections chez ces jeunes femmes. Réduire à zéro les besoins non satisfaits de family planning. Il va de soi que si une femme n'est pas enceinte, le risque de transmission au bébé en est diminué d'autant, évidemment. Donc ça, ça fait partie intégrante de la stratégie, théoriquement. Ensuite, réduire à 5% la transmission du VIH de la mère et l'enfant, c'est l'intervention de PTME directement dont on parle là, la prévention de la transmission une fois que la mère, la femme est enceinte et qu'elle est séropositive. Et enfin, prendre en charge 90% des femmes séropositives éligibles au traitement ARV pour leur propre santé. Donc, indépendamment de la grossesse et du bébé, pour leur propre santé, les protocoles maintenant invitent les équipes à mettre les femmes sous traitement à vie une fois qu'elles sont dépistées séropositives. En théorie, la stratégie aborde des fronts complémentaires de la problématique, comme nous venons de le voir. Lors de la réalisation, c'est la dimension thérapeutique qui va prendre le dessus, les efforts se concentrant sur l'objectif quasi unique, finalement en pratique, de mettre les femmes enceintes séropositives sous traitement. Les autres volets de la prévention, notamment ne pas être infectée ou ne pas être enceinte, passent au second plan. Or, c'est la combinaison de toutes ces interventions qui serait la plus efficace. Donc, pour cette stratégie mondiale, 22 pays prioritaires, dont 16 pays sont situés en Afrique de l'Est et Australe de l'Afrique, qui comptent beaucoup de femmes séropositives, et 6 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, RDC, Cameroun, Tchad. Donc, quels sont les résultats maintenant de ces stratégies? Les résultats sont inégaux sur le continent. Les pays d'Afrique australe et de l'Est enregistrent les meilleurs taux d'utilisation des services de santé par les femmes enceintes et les meilleurs taux de réussite des programmes de prévention de la transmission mère-enfant. En Afrique du Sud, au Botswana, en Zambie et au Zimbabwe, la quasi-totalité des femmes enceintes séropositives ont été dépistées et 61% en Afrique de l'Est et australe. Par contraste, les progrès dans l'ensemble de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont été freinés par les faibles taux de couverture du Nigeria et de la République démocratique du Congo, qui supportent le poids le plus lourd de l'infection VIH dans la région. Dans cette région, ce sont seulement 25% des femmes enceintes qui ont été dépistées en 2010, moins de 20% au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Tchad. Ces inégalités de couverture du dépistage se retrouvent pour le traitement. En 2010, 64% des femmes enceintes séropositives en Afrique australe ont bénéficié des interventions de prévention de transmission mère-enfant du virus, contre 18% en Afrique de l'Ouest et centrale. L'Afrique représente 91% des besoins mondiaux en traitement antirétroviraux pour les enfants. En 2010, la couverture était de 26% en Afrique de l'Est et en Afrique australe et de 9% en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc les enfants sont encore les plus oubliés de ces stratégies mondiales de prévention et de prise en charge du sida. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour faire bénéficier les enfants, les nourrissons et les enfants de ces stratégies. Pourquoi les progrès sont-ils si lents? Alors, je vous épargnerai la litanie que la communauté internationale nous livre depuis des décennies pour tenter d'expliquer les faibles résultats des politiques de prévention de la transmission mère-enfant du sida. Les dysfonctionnements des services de santé n'expliquent que pour partie l'échec des interventions de prévention et de prise en charge du sida maternel et pédiatrique. De notre côté, ce qui nous frappe à la lecture des documents stratégiques internationaux, c'est la position centrale occupée par la mère, la femme en tant qu'elle est enceinte et par son bébé ou l'enfant en tant que cible des stratégies de prévention de transmission mère-enfant du sida. Les stratégies ne considèrent la question de l'accès des femmes enceintes au traitement pour leur propre santé, maintenir leur mère en vie, c'est le thème, donc c'est la deuxième composante de la stratégie mondiale de prévention de transmission mère-enfant, seulement en 2010. Plus de 15 ans après que les médicaments antirétroviraux aient été reconnus efficaces chez les adultes, c'est la conférence de Vancouver en 1996. De notre point de vue, il s'agit de mettre la jeune fille, l'adolescente, la femme tout au long de sa vie, dès le plus jeune âge, et non exclusivement la mère, au cœur des objectifs des politiques sanitaires en général et des objectifs pour le monde après 2015. Tant que nous privilégierons le devenir de l'enfant plutôt que celui de sa mère, en tant qu'elle est avant tout une fille et une femme, nous échouerons à améliorer la santé des femmes, mais aussi celle des enfants. Nous voyons bien que ciblés, nous échouons aussi à prendre en charge les enfants. Une fois que la jeune femme est enceinte, n'est-ce pas déjà un peu tard pour prévenir quoi que ce soit ? Cela dit, je vous propose de nous arrêter sur trois autres interprétations de la question de la féminisation de la pandémie et de l'incapacité des stratégies nationales et mondiales à maîtriser ce phénomène, qui ne fait que s'aggraver. Premièrement, la négation des agressions et violences sexuelles comme pouvant être un des moteurs de la féminisation de la pandémie en Afrique. Sujet tabou, peu abordé même par les professionnels de santé, les violences sexuelles sont un facteur de propagation du virus chez les fillettes, les adolescentes et les jeunes femmes. À l'échelle mondiale, 11 à 45% des adolescentes déclarent que leur premier rapport sexuel a été forcé. Pour de nombreuses raisons, ce taux sous-estime probablement la réalité. Or, les rapports sexuels précoces et les rapports sexuels forcés augmentent le risque de transmission du virus. L'étude sur les jeunes en Côte d'Ivoire nous dit par exemple, je cite, « La violence lors des premières relations sexuelles et la domination sexuelle comme norme sociale, bien que déjà présente dans la société depuis un certain temps, ont pris de l'ampleur au cours de ces dernières années. La situation des pays en conflit armé ou post-conflit mérite toute notre attention, d'autant que les pratiques de viol se prolongent longtemps dans l'après-guerre. Ce sont 11 des 25 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont en situation de conflit armé ou post-conflit. » Dans un éditorial courageux, d'ailleurs, en octobre dernier, le journal Le Monde alertait l'opinion à propos des esclaves sexuels du régime islamiste au nord du Mali. Lors de la restitution des Assises du développement le 1er mars à Paris, les femmes africaines de la société civile étaient à l'honneur, dont les combats de Julienne Lusenge en République démocratique du Congo, qui nous dit que le corps des femmes, je la cite, « le corps des femmes est le champ de bataille des hommes ». Les données dont nous avons besoin pour prendre la mesure de ce phénomène et y répondre ne sont pas disponibles. Ni les travaux de recherche, ni les systèmes nationaux d'information sanitaire ne collectent les données de mortalité ou de morbidité associées au viol et à leurs conséquences sur la féminisation de la pandémie de sida en Afrique. Ceci n'est pas exploré, ce serait une hypothèse. Nous devons faire entrer ce phénomène dans la grille d'analyse et de réponse à la pandémie en Afrique en général et dans les stratégies de réponse nationales. Je n'insiste pas, nous reviendrons sur ces sujets, sur ces liens santé, sida et conflit au dernier cours. Pardon, je suis un peu en retard avec mes slides. Y a-t-il encore, c'est la deuxième interrogation, y a-t-il encore des actions de prévention de la transmission du VIH sur le continent ? Les stratégies mondiales en appellent bien à la couverture universelle pour la prévention et la prise en charge du sida et son traitement. En pratique, c'est le seul accès aux ARV qui domine les slogans, celui maintenant de mettre 15 millions de patients sous ARV, 15 millions de patients, oui, éligibles sous ARV d'ici à 2015. L'objectif pourtant affirmé par ailleurs, zéro infection, zéro discrimination, zéro mort, ne semble avoir moins de réalité sur le terrain. Quel est le sens de privilégier l'accès aux médicaments si pour deux patients mis sous traitement, cinq nouvelles infections se produisent ? Les instabilités du Fonds mondial se sont accompagnées de difficultés de prévisibilité des financements ces deux dernières années. Aux États-Unis, tous ne sont pas convaincus de la pérennité des financements du programme PEPFAR, qui dépendront des convictions du Congrès le moment venu du renouvellement des financements. Ne serait-il pas prudent de rééquilibrer les interventions sur le terrain entre prévention et prise en charge si les financements internationaux deviennent imprévisibles ? À propos de prévention, il est intéressant de s'arrêter un instant sur la répartition des financements du Fonds mondial par intervention de prévention. Au conseil d'administration réuni à Addis Abeba en 2009, le secrétaire exécutif du Fonds mondial présente la répartition donc des 840 millions de dollars que le Fonds mondial a dépensés pour la prévention. Nous voyons bien que les interventions de nature biomédicale, telles que la sécurité sanguine, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, le diagnostic et le traitement précoce des infections sexuellement transmises, le dépistage volontaire sont les interventions les moins financées par ce Fonds mondial, au profit de tout ce qui tombe sous le vocable « community outreach », d'information et de communication tous azimuts, dont les effets en termes de changement de comportement et d'adoption d'attitudes de protection par les populations sont peu évalués. En résumé, 40% des financements alloués à la prévention étaient octroyés à des interventions dont l'impact en termes de réduction de nouveaux cas est à peine mesuré. Selon les rapports de ces réunions, le conseil d'administration à qui est présentée cette figure, là, que je viens de vous montrer, ne commande pas cette observation. Nous savons pourtant depuis près de 10 ans, grâce à Dean Jamison et son équipe du projet Disease Control Priorities in Developing Countries, visant précisément à fournir aux autorités, aux policy makers, aux faiseurs de politique de santé, des informations fondées sur les faits, evidence-based, que ces interventions biomédicales de prévention sont les plus coefficaces. Ce que nous redit Omar Galagara et son équipe, dont Stefano Bertozzi, en novembre 2009, au moment même d'ailleurs où le secrétaire exécutif du Fonds mondial présente sa diapositive au CA, au conseil d'administration. Donc. Le Fonds mondial répond à la demande de financement des pays, sans qu'un dispositif ne soit mis en place pour s'assurer non pas de la qualité technique des interventions programmées, ce qui est prévu par le comité d'examen des projets, mais de leur pertinence stratégique à répondre à la situation de l'épidémie dans tel pays, dont les déterminants ne sont pas des facteurs standards d'un pays à l'autre, même en Afrique. Ce que les membres du conseil d'administration du Fonds mondial ne discutent pas non plus. Le détournement de quelques millions de dollars du Fonds mondial ou d'une autre institution financière retient davantage l'attention morale à l'échelle internationale. Le plus frappant actuellement, c'est de se rendre compte à quel point la prévention de la transmission du sida a disparu non pas des discours internationaux, effectivement, mais des réalités concrètes dans les pays, au profit non pas de la prise en charge globale des patients, mais du seul achat des médicaments ARV. Par égard pour les malades, gardons à l'esprit que les dépenses de santé hors ARV, hors médicaments antirétroviraux, de diagnostic et de suivi de la maladie, par exemple au travers d'examens de laboratoire, d'imagerie médicale ou d'achat des médicaments pour le traitement des infections opportunistes, donc des maladies qui pourraient survenir au long, restent à la charge financière des malades, qu'ils ne sont souvent pas en mesure d'assumer. Malgré ces slogans et les efforts, ce ne sont que 37% des malades éligibles au traitement antirétroviral qui en bénéficient en Afrique, plus de 40% en Afrique de l'Est et australe, et 25% seulement en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc dans cette région, un malade sur quatre qui devrait pouvoir bénéficier des traitements reçoit ce traitement au moins une fois. Par ailleurs, nous avons peu d'informations sur la qualité du suivi des malades sous traitement. Selon le rapport du Bureau régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en janvier 2013, dans la majorité des sites de prise en charge de la région, il n'y a toujours pas de suivi en temps réel des files actives par outils informatisés. Dispositif qui nous aiderait à suivre les patients, à déduire les taux de perte de vue, de résistance aux médicaments, etc. Vous voyez ici le taux de malades traités par rapport au taux de malades en attente, donc dans cette région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans quelques-uns des pays. La prévention de la transmission du sida en milieu de soins est à peine mentionnée dans les stratégies nationales. Les interventions planifiées ne sont pas réalisées la plupart du temps, faute de financement. Je parle de la prévention de la sécurité sanguine de transmission de, du risque de transmission du virus en milieu de soins et à travers la transfusion de sang. Le rapport de l'OMS 2011 sur la situation mondiale de la pandémie ne fait référence à la transmission sanguine qu'en quelques lignes et sans fournir des données. On présume donc que c'est assuré, mais ce n'est pas du tout le cas en milieu rural, notamment quand il s'agit de transfuser une femme en urgence, notamment lors de son accouchement, s'il se complique. 30 ans après le début de la pandémie en Afrique, les faiseurs de politique de santé attendent souvent de savoir ce qui marche en prévention et à quel coût. Les chercheurs ne sont pas nombreux à s'y intéresser et le savoir ne parvient pas jusque dans les pays. Nous avons trouvé deux études dont les intitulés ne peuvent être plus explicites, celle de David Ross, qui avait dirigé une task team de l'ONU-SIDA sur la prévention du sida chez les jeunes, justement, en 2006, qui s'intitule « Preventing HIV/AIDS in Young People, Evidence from Developing Countries on What Works ». Donc, ce serait d'actualité de revoir un petit peu les propositions, justement. Puis, l'étude de Stefano Bertozzi en 2008, intitulé en général donc, sur les programmes de prévention du sida, Making HIV Prevention Programs Work. Au moment où je prépare ce cours, l'ancien représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Diego Burio, me fait découvrir une nouvelle revue en ligne qui s'intitule Global Health Science and Practice et se définit précisément ainsi, Dedicated to What Works in Global Health Programs. Donc c'est exactement un outil de communication entre des praticiens et pour les praticiens sur le terrain et de mise en perspective donc, de la science et des pratiques donc, nécessaires à la décision politique de santé. C'est une revue qui vient de paraître. Enfin, sur la prévention, les quelques remarques de Meadover sont intéressantes. Je vous les livre ainsi sur la prévention de la transmission mère-enfant. Voici ce qu'il nous dit. La PTME n'est pas une intervention coût-efficace dans les pays à faible taux de prévalence, sauf peut-être chez les prostituées. La deuxième remarque, elle a l'intérêt cependant d'attirer les partenaires masculins de ces femmes au dépistage. Troisièmement, l'intervention est intéressante si elle contribue à renforcer les systèmes de santé mère-enfant en général, ou encore plus intéressant également, l'enregistrement des naissances à l'état civil ou des décès et de recenser du coup toutes les causes des décès des enfants par exemple. Parce que les systèmes donc, d'état civil doivent être renforcés pour que nos dénominateurs en santé publique soient fiables. Vous voyez l'importance du dénominateur dans nos interventions pour mesurer les progrès et les interventions. Quatrième remarque, une prévention efficace en amont concernant les filles et les femmes elles-mêmes, aura pour effet de réduire l'incidence du VIH, on en a parlé il y a un instant, des femmes, donc des femmes enceintes, et donc l'incidence VIH des enfants, qui, eux, ne transmettent pas. Je rajoute que ce serait donc parmi les quatre axes du plan global de la PTME, celui à privilégier en pratique, et en tout cas à mettre en œuvre en parallèle, cette prévention en amont d'infections donc chez les jeunes filles, les adolescentes, les jeunes femmes et les femmes. Et sa dernière remarque, il dit « Si le coût de la PTME était de fait de dépenser moins en faveur des adultes à haut risque de transmettre, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les « key populations », les usagers de drogue, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les prostituées, etc., alors l'impact net de la PTME pourrait bien être d'augmenter le nombre des enfants infectés parce qu'on consacrerait moins de ressources aux populations à risque » à une population moins à risque, d'après, donc selon, dépendant de la situation de prévalence en général dans tel pays. En effet, les pouvoirs publics, dit-il, acceptent plus volontiers de financer des actions en direction des mères que des groupes à risque, et nous allons le voir dans un instant. La troisième remarque, c'est la communication a envahi jusqu'à la sphère scientifique. Qu'est-ce que j'entends par là ? À la veille de la journée mondiale sur le sida le 1er décembre dernier, l'ONU-SIDA informe qu'en 2011, la couverture des services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Afrique subsaharienne a atteint 59%. L'année précédente, l'institution annonçait le taux de 48%. De prime abord, ce taux de 59%, le plus récent, donc, peut paraître rassurant, sinon satisfaisant, ou témoigner d'un certain progrès par rapport aux années précédentes. Ce n'est pas si simple. Quel est le dénominateur de ce taux ? En effet, ce qui nous intéresse du point de vue des politiques de santé, c'est la population cible des activités de prévention et de prise en charge, formée en l'occurrence de toutes les femmes enceintes séropositives d'un pays, d'une région ou du monde, selon ce que nous cherchons à observer. Mais nous cherchons à connaître l'ensemble, donc estimer l'ensemble de la population des femmes enceintes séropositives. Or, ici, le taux annoncé, qu'il soit de 59% ou 48%, se rapporte aux seules femmes enceintes qui ont pu être dépistées. Ce chiffre ne tient pas compte, c'est hélas le cas de le dire, des femmes qui, sans préjuger leur raison, ne viennent pas consulter à la consultation prénatale, ne viennent pas au centre de santé et n'accèdent pas de fait au dépistage. Selon les pays, les données nationales montrent que 20, 30, 40, 60%, voire 80% des femmes enceintes se rendent à la consultation prénatale au moins une fois. Et nous avions vu au deuxième cours que ce sont 4 consultations prénatales qui sont recommandées par l'OMS pour le suivi de la grossesse et que la 4e consultation prénatale, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes. Donc vraiment, il ne faut pas les louper, si je puis m'exprimer ainsi, lorsqu'elles viennent une première fois pour les dépister et les faire entrer dans ces programmes de prévention de transmission mère-enfant. Selon les pays, les données nationales donc, montrent des taux variables. Dans les pays à forte concentration rurale, comme au sud de Madagascar ou au nord des pays, du Sahel, Niger, Mali, c'est plutôt moins de 10% de femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale ou accouchent à la maternité. C'était 8% au nord du Niger il n'y a pas très longtemps. Les femmes habitent loin, elles ont d'autres enfants à la maison, elles sont fatiguées, anémiées et surmenées de travail domestique et informel pour gagner 3 francs 6 sous. Le transport coûte cher, elles n'ont pas envie d'aller à la maternité car elles y sont mal accueillies, souvent, parfois maltraitées. Elles ne voient pas bien ce que cet effort va leur apporter en échange, elles n'ont pas confiance. Elles savent qu'elles risquent de mourir lors de l'accouchement, ce que Dr Balik évoquait la semaine dernière, en citant l'ouvrage de Yannick Jaffré et collaborateurs, « La bataille des femmes ». En Côte d'Ivoire, 87% des femmes enceintes se sont rendues au moins une fois en consultation prénatale. Plus de la moitié des femmes enceintes n'ayant pas effectué au moins une consultation prénatale se retrouvent dans 6 régions, dont les régions des lagunes, c'est-à-dire autour de la capitale économique d'Abidjan, donc les plus proches, les plus riches en structures de santé. Une étude du ministère de la Santé signale que parmi les femmes enceintes qui ont effectué au moins une consultation prénatale, moins de la moitié ont été dépistées pour le VIH. Nous mesurons ici l'ampleur de ce que nous appelons les opportunités manquées, missed opportunities, à proposer le dépistage sérologique aux femmes enceintes qui viennent au moins une fois, c'est-à-dire que nous le pourrions en Côte d'Ivoire dans 87% des cas. Selon ce même document, 60% des femmes enceintes non dépistées proviennent d'une poignée de régions, dont les districts proches de la capitale économique d'Abidjan, où l'offre de services prénataux est la plus dense du pays, tant en infrastructure que personnel de santé et équipement. En conclusion, pour ce pays, les taux d'utilisation des services prénataux sont les plus bas, là où l'offre de soins est la meilleure. Que se passe-t-il? De manière générale, les travaux de Philippe Mselati en Afrique de l'Ouest ont toujours montré que si le dépistage est proposé à la femme enceinte, le taux d'acceptation du test est élevé. Les femmes comprenant bien l'intérêt de l'intervention pour protéger leur bébé et améliorer leur survie. Ce que nous appelons la cascade de la PTME décline les étapes du parcours des femmes enceintes entre la consultation prénatale, la proposition du dépistage, l'acceptation du test, le retour pour chercher le résultat, le retour pour les CPN suivantes, le retour pour l'accouchement, la mise sous traitement de la mère, puis de l'enfant. Vous voyez autant d'étapes successives lors desquelles nous perdons de vue quelques-unes de ces femmes à chaque étape. En appliquant le taux de séropositivité du moment à la population des femmes enceintes, c'est-à-dire des grossesses attendues dans le pays, et en le mettant en perspective des femmes dépistées séropositives dans les consultations prénatales, l'étude du ministère de la Santé à Abidjan montre que moins de la moitié des femmes enceintes séropositives attendues ont pu être identifiées et bénéficier des services de prévention de la transmission mère-enfant, notamment des antirétroviraux. Là, je vous donne l'exemple de la distribution de population au Mali, mais les pays ont les mêmes figures donc, de distribution, font ces travaux pour avoir justement une idée des populations cibles, du nombre de femmes dans la population, du nombre de femmes, du nombre de grossesses attendues, du nombre d'accouchements attendus, du nombre de césariennes que nous devrions prévoir, etc. Donc c'est à partir de ces calculs que nous pourrons estimer, que nous pourrions estimer le nombre de femmes enceintes séropositives attendues en appliquant à ces populations un taux de séropositivité chez des groupes de femmes enceintes sentinelles, qu'on appelle sentinelles, pour lesquelles on surveille le taux de prévalence d'une année à l'autre, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Donc, en Côte d'Ivoire, le rapport poursuit et dit « Les besoins non couverts sont importants dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Cependant, les régions des lagunes et quelques autres régions concentrent le plus de femmes enceintes qui n'ont pu être identifiées et bénéficier des interventions. » Ma démonstration est un peu longue, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce sont toutes ces femmes non identifiées, pourtant séropositives, qui ne figurent pas au dénominateur des taux qui nous sont communiqués. Je viens de vous décrire la situation en Côte d'Ivoire, qui, selon le rapport du Bureau régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre basé à Dakar, est l'un des pays les plus performants eu égard à la PTME, malgré les instabilités politiques que le pays a traversées ces dernières années. L'étude dit aussi qu'au plan de toute la région, la cascade de la PTME montre la proportion considérable de femmes qui échappent au service de la PTME, ce qui, couplé à une faible utilisation globale des services, explique les mauvais résultats de la couverture sanitaire donc pour cette intervention dans la région. Ce même document attire l'attention sur le fait que les données d'accès aux services pour les groupes à risque, les populations clés, telles que les prostituées, les usagers de drogue, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ne sont pas disponibles. Et de fait, je cite, ces populations ont un accès réduit aux services de prise en charge alors qu'elles sont massivement touchées par l'épidémie et on a moins de données sur ces groupes marginaux. Ces personnes donc font partie des oubliés des politiques et systèmes de santé nationaux, notamment parce qu'en raison de leurs pratiques illégales, clandestines, elles sont stigmatisées, victimes de discrimination et de violences physiques même, voire d'assassinats, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes en Ouganda ou en Jamaïque. Ils se tiennent prudemment à l'écart des interventions. Ce sont souvent des associations plutôt que des politiques publiques qui s'occupent de la prévention et de la prise en charge auprès de ces personnes. À ne pas les comptabiliser, ces femmes enceintes, ces personnes en marge de la société, ces populations dans l'ombre, on confirme qu'elles ne comptent décidément pas. Si pour les femmes enceintes séropositives, l'ensemble de la population cible figure au dénominateur, plutôt que 59% communiqué, le taux réel ou vrai tournerait plutôt autour de 10%, voire moins selon les pays ou régions. En tout cas, il reste à être mesuré. Nous avons là un effet de communication. C'est l'illusion que la situation progresse plutôt que la réalité qui se trouve valorisée. Il est intéressant de se rendre compte que les responsables des institutions de santé mondiale finissent par croire eux-mêmes à ces taux, pourtant faux, de couverture. Nombre de spécialistes de santé mondiale, administrateurs dans différentes institutions, ne prêtent pas attention à ces variations qu'ils ne discernent pas quelquefois. Or, en termes de politique publique, la nuance nous semble capitale, dont vont dépendre l'ampleur de la volonté politique, de la réponse donc, à la situation décrite et le montant de ressources mobilisées. En sous-estimant les taux, nous prenons le risque de fournir nous-mêmes aux autorités de santé toutes les raisons d'une réaction qui ne peut pas être à la hauteur des enjeux. Selon Ignacio Ramone, le remplacement de l'idéologie de progrès par celle de la communication entraîne des bouleversements de tous ordres et brouille la mission même du pouvoir politique. Les épidémiologistes, parmi les scientifiques de nos métiers, me répondent souvent « on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ». Ils ne semblent pas tenter de rectifier ces effets de communication et dire la vérité scientifique. Or, nous avons besoin de science pour rétablir un peu de rationalité dans les esprits politiques ballottés entre les objectifs de santé publique et les intérêts commerciaux, entre la lutte contre les maladies infectieuses et la prise en charge des maladies chroniques et leur prévention, entre les programmes verticaux et l'appui au système de santé. L'emprise de la communication sert le milieu politique, nous l'avions compris. Plus important encore, la communication a gagné jusqu'à la sphère scientifique, au point que tous ensemble s'entendent à effacer du dénominateur le volume qui représente parfois la majeure partie de la population cible, en outre la plus exposée au risque d'infection à VIH. Les personnes qui ne viennent pas consulter. La crédibilité et la valeur scientifique des revues sont discutables lorsque celles-ci offrent aux institutions internationales une tribune de communication. De temps en temps, je pense aux Anormaux de Michel Foucault et à cette phrase prononcée au Collège de France, « Ce sont des discours de vérité qui font rire et qui ont le pouvoir institutionnel de tuer ». À moins que nous n'observions une dérive totalitaire de la globalisation de la santé au sens d'Anna Arendt. je la cite. Le totalitarisme ne tend pas vers le règne despotique sur les hommes, mais vers un système dans lequel les hommes sont de trop. Le sujet idéal du règne totalitaire, c'est l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction et la distinction entre vrai et faux n'existe plus. Ces phénomènes sont peu étudiés. En récapitulant les études sur le coût-efficacité des interventions de prévention du sida sur la période 2004-2008, Omar Galagara confirme que les études sur les facteurs structurels de la transmission du VIH se comptent sur les doigts d'une main. Il en a recensé deux, en l'occurrence, dans cette étude sur 4 ans. Voilà un champ de recherche à explorer. Comment pouvons-nous effacer ainsi une partie des populations censées bénéficier des politiques sanitaires au même titre que toutes les autres? Est-ce que les analyses et les taux qui ne les incluent pas nous intéressent? Est-ce que nous préférons l'illusion de progrès et les oublier? Ne voyez pas dans mes propos une leçon de morale. Ainsi que l'exprime Michel Foucault, je le cite, « Le problème n'est pas de changer la conscience des gens ou ce qu'ils ont dans la tête, mais le régime politique, économique et institutionnel de production de la vérité. Il ne s'agit pas de la fondation d'une morale, dit-il, qui recherche le bien et se détourne du mal, mais de l'exigence éthique qui poursuit la vérité et dénonce le mensonge. Ce n'est pas une morale de philosophe, c'est une éthique de l'intellectuel engagé », nous explique Frédéric Gros, qui a fait un très beau livre à propos de Michel Foucault sur le courage de la vérité. Et il dit, Frédéric Gros, « un intellectuel destructeur des évidences et des universalités », selon les propres termes de Michel Foucault. Donc, quels sont les enjeux pour l'avenir ? Très rapidement, les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent déjà 34% de la population en Côte d'Ivoire. Entre 15 et 24 ans, ils sont parmi les couches de la population les plus touchées par la pandémie, c'est-à-dire la moitié des nouvelles contaminations. Compte tenu de la croissance de la population attendue dans les années qui viennent en Afrique, qui s'accompagnera d'une très grande proportion de jeunes, 40% nous dit-on, considérant par ailleurs la très forte urbanisation en cours et les résultats de l'étude UNICEF en Côte d'Ivoire insistant sur le fait que les jeunes garçons les plus instruits, les plus riches et les mieux informés sont les plus exposés au risque d'infection à VIH aujourd'hui, nous sommes invités à revoir rapidement et complètement les stratégies en réponse. Du fait de la promiscuité de la pauvreté liée à l'urbanisation galopante, il est à prévoir une recrudescence de la tuberculose en milieu urbain surpeuplé. Nous vient à l'esprit aussi l'abus de l'alcool auquel sont exposés ces mêmes jeunes, instruits ou moins, qui ont de l'argent, qui sortent et qui boivent. Sachant que la prise d'alcool réduit la perception du risque, des travaux de recherche pourraient s'intéresser aux interrelations de l'alcool, des drogues et du sida sur le continent. Nous nous souvenons qu'à San Francisco, dès les années 80, bien que n'étant pas injecté par voie intraveineuse, le crack précipitait ses usagers dans le groupe des plus exposés à l'infection à VIH aux États-Unis, du fait de la prise de risque associée à cette drogue, au crack. En Afrique, les programmes de prévention des maladies infectieuses et chroniques pourraient être intégrés au plus vite, suivant une stratégie commune de prévention, de dépistage et de traitement précoce. En santé publique, précocité des interventions rime avec efficacité, efficience. Ça coûte moins cher aussi. Plus tôt on est dépisté et soigné, moins il y a de complications pour la personne et moins c'est coûteux pour le système. Il faut sortir les filles de la misère et de la dépendance économique, de la violence. Il faut en faire un objectif. Il me semble que par rapport à ces défis connus de longue date, l'objectif du millénaire pour le développement qui visait à scolariser l'ensemble des filles dans le primaire avant 2015, donc du niveau primaire, manquait d'ambition. C'est notre objectif sur les 15 ans jusqu'en 2015. Jeffrey Sachs, de passage à Sciences Po le 18 mars, donc il y a quelques jours, annonçait que cet objectif pour le monde après 2015 serait de scolariser 100% des filles dans le niveau secondaire, objectif en train d'être discuté. C'est encore un manque d'ambition. Ne pouvons-nous pas réaliser maintenant le rêve de voir les filles du continent accéder aux études supérieures et à l'emploi dans les mêmes proportions qu'en Europe ou aux États-Unis? Je me suis adressée à vous aujourd'hui en tant que professionnelle de santé publique, animée par l'éthique de l'intellectuel engagé. Je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo, nous n'avons quelques minutes, donc sur la façon dont les politiques donc de prévention de la transmission mère-enfant sont proposées et mises en œuvre en Côte d'Ivoire.